I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour Chris, de la décryptance.
Guillaume, de la sueur.
Comment ça va? On va parler d'Alexandre Usyk contre Anthony Joshua volume 2. On est très 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 chaud avec Chris. On va vous expliquer pourquoi. Enfin déjà, je vais vous dire pourquoi. Pourquoi? Parce que le premier combat a été un véritable séisme. C'était à Wembley, 90 000 personnes, tout le monde était très chaud. Vous le saviez, on était déjà dans le train un petit peu Alexandre Usyk, mais on se disait bah c'est pas possible tout simplement parce que bah différence de gabarit, ok c'est le plus technique, c'est le meilleur boxeur, mais face à Anthony Joshua, va y avoir ce petit plafond de verre qui fait que vous appelez Conor McGregor, vous avez envie de taper un Francis Ngannou, toute proportion gardée, ça risque d'être compliqué pour vous. Je pensais que c'est ce qui allait se passer, alors que non. Anthony Joshua, clairement, pour moi, était sauvé par la cloche parce qu'il y avait un round de plus, même quelques secondes de plus. Le monsieur s'effondrait, mais, et c'est pas un petit mais, et c'est ce que Chris va vous montrer, il y a quand même des petites pistes pour Anthony Joshua qui devraient peut-être, sûrement, lui permettre de s'imposer. Et je me permets aussi d'ajouter un truc qui est quand même très important par rapport à la boxe anglaise, c'est que c'est Joshua qui organise la revanche. Tout le combat revanche est fait autour d'Anthony Joshua. La différence de l'UFC, enfin du MMA au global, on va dire, plutôt l'UFC, où vous avez beau être le favori, vous avez beau par exemple vous appeler Conor McGregor, le combat beau être fait pour vous, si le mec est meilleur que vous, vous allez forcément perdre. En boxe anglaise, il peut y avoir des décisions, s'il n'y a pas de KO, vous pouvez être surpris par certaines décisions. Donc je préfère prévenir parce que les gens qui vont peut-être découvrir la boxe anglaise par ce combat Joshua Usyk 2, si on vient à aller, je sais pas moi, un combat assez serré et que les gens se disent « Ah oui d'accord, en fait Joshua il a gagné 8 rounds sur 12 », ne soyez pas surpris, c'est déjà arrivé avec par exemple Canelo contre Golovkin. Chris, je sais pas si t'avais quelque chose à ajouter en guise d'introduction.
Non, tu as fait une très belle introduction, donc générique.
Oh générique, formidable. Soit.
Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 euros offerts sur ton premier pari.
En gros, Chris, c'est assez simple finalement pour cette revanche. Est-ce que Joshua peut utiliser son physique, peut finalement montrer qui est le patron physiquement dans le ring face à Usyk, et est-ce que Usyk peut faire un bis repetita de ce qui s'est passé lors du premier combat? Parce qu'on a du mal... Personnellement, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je vois mal Usyk changer pour ce combat-là. Et alors que Joshua, lui, peut faire des choses... mais a tout intérêt à faire des choses différentes.
C'est exactement la base de l'analyse qu'on doit dire. Évidemment, il y a une défaite du côté de Joshua qui est claire et nette. Et du coup, c'est à lui à faire les adaptations. C'est lui qui doit trouver un moyen de changer son style pour mieux répondre aux armes et aux qualités de Usyk. Moi, ce que j'avais préparé, c'était un peu un résumé du premier combat qui servira en fait de base sur les adaptations à faire de part et d'autre. Parce que voilà, Usyk a gagné, mais il y a des pistes d'amélioration malgré tout. Et il doit s'attendre à ce que Anthony s'adapte. Et donc lui, il doit venir avec quelque chose de nouveau. Alors la grosse différence pour moi entre les deux, de manière générale, c'est que Usyk est quelqu'un qui s'adapte extrêmement bien en combat parce qu'il est, comme tu l'as dit, il est tellement technique, il a un arsenal et un style tellement varié qu'il peut, au cours du combat, changer complètement sa stratégie, changer son style, changer son tempo et vraiment surprendre son adversaire au sein même du combat. Joshua, j'ai l'impression qu'il a plus besoin de venir avec une stratégie et il a besoin qu'elle fonctionne parce que il a pas un plan D, un plan E, il a un plan A, il a un genre de plan B et s'il doit aller chercher un plan C, c'est là où ça commence à planter. Ouh, j'ai pas fait exprès, mais elle était pas mal. Donc sur le premier combat, je trouve que c'est Usyk qui est vraiment bien rentré, dans l'action. On dit souvent en boxe anglaise, si t'as pas des bons mouvements de tête réactifs ou des bons déplacements réactifs, tu dois absolument avoir des bons déplacements proactif. Donc, soit tu bouges les pieds, soit tu bouges la tête. Si tu bouges aucun des deux, tu es une cible statique. Et si tu n'as pas des bons mouvements réactifs, bah, c'est facile de te toucher. Et Usyk, il est vraiment rentré dans ce combat en disant « Je suis plus léger, il faut que je me déplace. » Ça va gêner Anthony Joshua. Et en plus de ça, il est venu ultra bien préparé. Joshua, c'est quelqu'un qui aime bien contrôler l'axe. Il va souvent jeter son jab, que ce soit en garde ouverte ou en garde fermée. Il va souvent tendre son bras avant. Et ce que Usyk a fait dès le début du combat, c'est il venait juste toucher avec son point avant, le point avant de Joshua, en sachant qu'en le touchant, Joshua va tendre le bras avant. Et il anticipait ça en sortant la tête sur l'extérieur, sortant son pied sur l'extérieur du pied avant de Joshua pour envoyer son direct. On a vu directement Joshua, je pense que dans les 12 premières secondes du combat, il prend un direct immédiatement et on voit qu'il est surpris par la vitesse. Donc à ce niveau-là, je trouve que il était très bien préparé, ses déplacements étaient vraiment efficaces et on a senti que Joshua était assez perdu dans le début du combat. Il s'attendait pas à cette vitesse, il s'attendait peut-être pas à quelqu'un d'aussi mobile que ça face à lui et il avait pas vraiment de répondant. Par contre, Joshua a fait une première bonne adaptation expérimentée comme il est. C'est j'ai quelqu'un de très mobile face à moi. La cible la plus facile à toucher quand quelqu'un bouge beaucoup, c'est le corps. Donc, il est allé chercher le corps. Donc, première bonne adaptation. Je suis désolé, je vais faire un vrai monologue et je suis en train de regarder mes notes en même temps. Mais je trouve que c'est bien de mettre cette base pour un peu remémorer ce qui s'est passé dans le premier combat. Donc, le deuxième round, il est un peu, il n'y a pas assez de volume. Donc, je pense qu'il y a un juge qui le donne à Joshua, deux à Usyk. C'était vraiment assez serré. Il y a trop peu de touches que pour vraiment analyser quelque chose. Et donc, c'est Usyk qui va modifier son jeu. Il va beaucoup plus varier son timing, ses angles. Il va toucher avec sa spéciale. Je mets mon pied sur l'extérieur en garde ouverte, mais j'envoie mon up jab. C'est généralement le... comment expliquer ça? Si on est en garde ouverte, donc gaucher contre droitier, en général, on sait tous que je mets mon pied avant sur l'extérieur du pied avant de mon adversaire, ça sort ma tête de l'axe et ça me permet d'envoyer mon direct, mon bras arrière, ce qu'il est aligné avec ma cible. Ce que Usyk fait, c'est il sort son pied sur l'extérieur, mais au lieu de sortir sa tête avec, il laisse sa tête vers l'intérieur pour envoyer son up jab. Donc, ça crée un angle qui est vraiment intéressant. Ça touche, c'est quelque chose qu'il fait dans beaucoup de ses combats. Et ça fonctionne très bien parce qu'en boxe anglaise, les meilleurs combattants ne visent pas là où la cible est, mais là où la cible sera, en sachant que l'adversaire se déplace. Donc, si mon adversaire se déplace sur ma gauche, je vais pas envoyer mon jab vers sa tête, je vais envoyer mon jab vers là où la tête sera. Et quand Anthony Joshua essaye d'envoyer le jab vers là où la tête sera, ben, elle n'y est pas parce qu'il l'a pas bougé avec son déplacement. Et je trouve ça absolument spectaculaire. Il faudrait peut-être mettre une petite séquence de ça parce que c'est super beau. Bref. Au cinquième round, c'est là où Joshua commence à faire les bonnes adaptations. Il met la pression. Il va chercher le clinch et il commence à contrer les déplacements de Usyk. Donc, quand Usyk se déplace sur sa droite, il va envoyer plusieurs crochets ou uppercuts au corps et ça fonctionne bien. Donc, on voit Anthony Joshua à partir du cinquième qui re-rentre dans le combat. Mais tout ça, c'est pour qu'au sixième, c'est pour capitaliser dessus au sixième. Donc, au sixième, il se rend compte que, il doit plus initier, il doit moins être réactif, il doit être plus proactif par rapport à Usyk. Donc il commence à mettre plus de pression et à fermer la porte sur son côté fermé. Donc évidemment en boxe anglaise il n'y a pas les spinning back fists, donc quand quelqu'un se déplace sur l'extérieur en permanence sur le côté avant, il n'y a pas beaucoup d'options à part des larges crochets qui ouvrent quand même sur les contres en jab ou en direct. Donc il ferme les déplacements de Usyk sur son côté fermé, il met la pression, ce qui lui permet de beaucoup plus toucher, de beaucoup plus anticiper les déplacements de Usyk vers sa droite pour frapper avec sa droite. Et alors pour moi le plus beau round c'est le round 7. Parce que là, on se dit, OK, Joshua est rentré dans le combat. Il commence à avoir le timing, il commence à trouver ses techniques. Il va commencer à prendre l'ascendant. Et Usyk, là, il fait exactement ce qu'il doit faire. Il a remarqué que Anthony Joshua le contrait sur ses déplacements. Donc, Joshua, il provoquait des déplacements chez Usyk pour les contrer. Ce que Usyk faisait, c'est au lieu de se déplacer en full step, donc en faisant des gros steps pour se faire contrer, entre guillemets, il faisait des demi-steps. Il savait qu'en faisant le demi-step, il allait feinter un déplacement et pas feinter une attaque. Et étant donné qu'Anthony Joshua était en train de contrer les déplacements, la feinte du déplacement lui permettait de ne pas se faire toucher et de capitaliser sur l'ouverture. Anthony Joshua, il dit « Merde, il commence à feinter les déplacements et à contrer mes contres. Donc, je vais arrêter de réagir sur ces déplacements. » Et ne pas réagir, c'est réagir. Donc, Usyk ne devait plus feinter. Il pouvait attaquer puisque les ouvertures étaient là. Et j'ai trouvé absolument ça spectaculaire. On arrive dans le round 8. Anthony Joshua, ça va être rapide sur la fin. Joshua, grandiose l'adaptation. Il se dit, il me fait réagir et quand je réagis, il capitalise dessus et ça joue contre moi. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'empêcher de me feinter. Je vais mettre du volume. Il met la pression, il met le volume, il engage et il gagne le round. C'est de nouveau un tournant du match. On a l'impression que ça revient à son avantage. Mais le problème de ça, c'est que ça fatigue. Et Joshua, il est connu pour de temps en temps ralentir sur les derniers rounds. Et là, ce round 8, après déjà avoir eu 7 rounds assez actifs, face à une pile électrique qui est usique, mais il a su faire ça sur le round 8. Mais il a plus su le faire à partir du round 9. Et là, 9, 10, 11, 12, Usyk a commencé à prendre l'ascendant. J'ai même plus besoin de décrire. Et voilà. Donc ça, pour moi, c'était la base du combat. Il y a eu beaucoup de changements, beaucoup d'adaptations stratégiques. Et c'est là où on voit le niveau des deux gars. Ils savent que lui fait ça, je fais ça pour m'adapter. Celui qui est maintenant à mal, OK, je dois faire ça pour m'adapter. Et là, on a vu que Usyk, techniquement, avait des niveaux en plus d'adaptation. Il avait des couches en plus dans son jeu que Joshua n'a pas.
Donc,
fini mon monologue.
Donc, Chris, maintenant, là, pour cette revanche, maintenant qu'on a vu ça, qu'on a vu qu'effectivement, Joshua, rien n'était perdu. En plus, il a changé de coach, Anthony Joshua, pour préparer ce combat-là. J'ai pas vu, moi, physiquement, d'évolution chez lui. Quand je dis d'évolution, on va dire, c'est, par exemple, pour regarder le combat, les différents combats Tyson Fury contre Deontay Wilder, on a un Tyson Fury qui a résolument changé d'approche entre le premier et le deuxième combat, et ça s'est confirmé dans le troisième ensuite, où il y avait vraiment cette volonté de marcher sur Deontay Wilder. Toi, est-ce que tu penses que, justement, Joshua va arriver avec quelque chose de résolument différent, comme ce qui a pu marcher, ou bien que, parce que mine de rien, faut préciser, il n'y a pas eu 3 ans d'écart entre les deux combats, c'est quand même compliqué de changer résolument quelqu'un, surtout qu'il y a quelques failles comme ça qui l'empêchent, par exemple, de durer de cette manière-là dans un combat.
Mais voilà, effectivement, je pense que quand tu es autant avancé dans ta carrière que Joshua l'a été et que ta préparation elle n'est pas si longue, tu ne peux pas changer ton jeu, tu dois adapter ton jeu, tu dois les forces qui existent et qui ont bien fonctionné face à Usyk, tu dois les peaufiner et tu dois faire quelques petits changements stratégiques qui sont déjà dans ton arsenal. Donc, je vais prendre un bête exemple. Pour moi, Anthony Joshua doit mettre davantage la pression dans ce combat. Il a très bien pris le centre du ring, ce qui lui permettait de désengager, ce qu'il avait fait dans le round 6. C'est la première fois qu'il désengageait dans le combat pour un peu reset l'action et calmer le tempo de Usyk. Mettre la pression et fermer des portes, ça permet de créer des ouvertures forcément. Usyk, pendant quasi tout le combat, à part le round 5, il savait bouger sur sa gauche et sur sa droite. Parce qu'il avait suffisamment d'espace derrière lui, il avait de l'espace à gauche et à droite. Si Anthony Joshua arrive à mettre un tout petit peu plus de pression et pas être en mode « je prends le centre, mais je prends le centre et j'avance », ça va lui permettre de minimiser les options d'Usyk. C'est-à-dire que si tu mets la pression et que tu formes la porte sur ta gauche, tu sais que le gars il peut soit avancer sur toi, soit dresser contre les cordes, soit bouger sur la droite. Et connaissant Usyk, bah, il va certainement bouger sur la droite, ce qui te permet d'un peu anticiper ses mouvements et trouver des ouvertures. Donc ça, c'est quelque chose qu'il est capable de faire. Et je pense que il y en a qui aiment bien spéculer sur le mental de Joshua en disant mentalement, il craque très vite, psychologiquement, il n'est pas à la bonne place. Mais là, il doit rentrer dans le combat. Il doit être conscient qu'il va prendre des frappes, mais c'est lui le plus lourd, c'est lui le plus puissant. Et volume contre impact, il doit se dire, OK, j'accepte d'en prendre une ou d'en prendre deux, pour en remettre une plus forte ou deux plus fortes. Tu touches plus fort, même si tu te fais toucher plus, bah ça s'équilibre, ça va à ton avantage. Donc, il doit être plus impactant. Il doit accepter qu'il va se faire toucher et surprendre de nouveau par la vitesse de Usyk, mais il doit se dire, OK, si je me fais toucher, il faut que j'ai du répondant. Et il faut que mon répondant soit plus impactant que ce que j'ai encaissé.
Est-ce que tu penses qu'il peut réussir à finir Usyk? Parce que moi, je le pensais déjà pour le premier combat. Là, pour moi, c'est encore plus vrai. C'est si ça, on va jusqu'au bout, si ça tient 12 rounds, c'est que ça veut dire que la stratégie de Joshua n'a pas fonctionné.
Je suis amplement d'accord là-dedans. Pour moi, il doit.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Il doit gagner les trois premiers rounds absolument. et il faut pas que ça dépasse le septième. Je crois qu'il a, il a quelque chose à jouer jusqu'au sept grand maximum. D'ailleurs, on l'a vu dans le premier combat. Je pense pas que l'intensité du combat, si lui arrive avec la même stratégie, c'est pas Usyk qui va mettre beaucoup plus d'intensité. Mm-hmm. Peut-être un peu, parce que stratégiquement, je pense qu'il a un coup à jouer à en mettre un peu plus dans le premier, deuxième. Mais voilà, en termes de volume, je pense que Joshua aura du répondant jusqu'au septième. Mais clairement, tout va jouer pour Joshua dans les trois premiers. Si les trois premiers, il les laisse glisser entre ses gants, à partir du 4, ça n'ira pas non plus. Donc, il doit venir avec une plus grosse prise de risque. Pour moi, il doit venir de manière plus agressive. J'ai mis un point d'interrogation dans mes notes sur le clinch. Quand t'es plus lourd, quand t'es plus physique, et quand ton adversaire est plus rapide, c'est une bonne idée de temps en temps casser la distance, chercher le clinch, fatiguer les bras pour ralentir ton adversaire et commencer à avoir du répondant dans les échanges par équilibre de vitesse grâce à la fatigue de Usyk. Donc, oui, clairement, Joshua doit venir pour finaliser parce que ça va être difficile pour lui de l'emporter à la décision ou en tout cas même de tenir jusqu'à la décision. Mais imaginons qu'il met... parce que pour gagner les premiers rounds, il doit mettre plus d'intensité que d'habitude. Donc, il va plus se fatiguer que d'habitude. Et on sait que son cardio tient pas spécialement 12 rounds. Donc, même s'il arrive à prendre les 7 premiers rounds, après, c'est de la survie totale face à Usyk, qui, dans le premier combat et dans d'autres de ses combats, montre qu'il a une capacité à récupérer de l'énergie qui est absolument incroyable. Je pense que dans le premier combat, vers le quatrième, cinquième round, on voit un Usyk qui commence à mettre moins de volume, à ralentir, on se dit, tiens, il fatigue. Et en fait, quand il revient dans le 6-7, surtout dans le 7, on dit, mais c'est incroyable comment il récupère son énergie entre deux rounds. Et ça, clairement, ici, dans la revanche, Anthony Joshua peut pas... C'est pas une option pour lui, pour moi.
Et sachant que je vous vois venir, vous allez dire, oui, mais les gars, souvenez-vous de la revanche Joshua-Ruiz. On a vu un Joshua complètement différent, bien plus virevoltant. Sauf que c'était un Ruiz qui était hors de forme et qui avait pas les déplacements du SIC et donc pas cette capacité à pouvoir suivre un Joshua qui allait justement se déplacer tout autour d'Andy Ruiz et puis justement être touché sans être touché et aller chercher le combat par décision. Là, c'est complètement différent pour Anthony Joshua. Du côté du SIC, qui mine de rien, ça aussi, hein, faut le dire, depuis qu'il est monté chez les lourds, c'est moins violent que d'autres athlètes, mais on voit que son corps, tu vois, s'adapte petit à petit à la catégorie, qu'il est toujours un peu plus lourd, et puis surtout, moi, tu vois, je m'attendais pas à ça, c'est qu'il fait mal, mine de rien. Et je pense que ça aussi, Joshua était surpris de... Chaque fois qu'il se prenait les coups du SIC, il le sentait vraiment, et c'était pas juste un SIC qui allait, on va dire, jouer à la touche, mais c'était à la manière de... Ah merde, j'oublie son nom, le Britannique qui avait affronté Usyk ou... Aïe. Qui joue dans Creed. Oh my god, quelle honte.
On n'est pas dans le milieu du MMA, donc
Quelle honte.
Je sais
quelle aider. Honte. Quelle honte. Quelle honte. Mais en plus, il est très connu. Il est très très connu. Ça arrive très rapidement, Chris. Oh là là. C'était un gros gros combat pour... voilà, c'était contre Tony Bellew. C'était juste avant le combat, la montée chez les lourds de Usyk. Et c'était un combat, c'était exactement la même chose, où on voyait que Usyk démarrait en mode diesel. Bellew était là, en train de chambrer, parfaitement confiant. Et sauf que dans les derniers rounds, donc je crois que c'est au 8e qu'il se fait mettre KO, c'était très très choquant. Et je crois qu'à partir du 7e, là aussi, tu vois, il y a vraiment une... On voit l'inversion brutale de confiance et de ressenti entre les deux gars, avec Usyk qui est en mode là, en fait, clairement, je commence. Et c'est pour ça que moi, pour Usyk, et c'est ce que j'avais dit lors du premier combat, je me dis, dès qu'on arrive à passer ce 8e round, si vous êtes toujours là face à Usyk, c'est que ça sent très mauvais pour vous, parce que c'est justement à ce moment-là que lui commence son travail de démolition, alors qu'avant c'était plus il jaugeait, il est en train de récupérer toutes les infos sur vous, et là il commence à accélérer, et vous n'avez aucune réponse. Et contre Bellew, vous pouvez regarder le combat parce qu'il est disponible sur YouTube, c'est d'une violence assez hardcore.
Ouais, et tu notes quelque chose d'excellent, évidemment, sur Usyk, c'est sa lecture du jeu. C'est clair que dans les premiers rounds, il aime bien essayer de les remporter. C'est pas grave s'il les remporte pas. Lui, tout ce qui compte, c'est de prendre des données sur l'adversaire. Ok, ta stratégie, c'est ça. Ton timing, c'est ça. Tes déplacements, c'est comme ça. Ta vitesse, c'est ça. Et sur base de ça, j'ai des réponses. C'est ça qu'on disait en début de podcast. Il a une technique. Il est capable d'attaquer sur tellement d'angles. Il a tellement de styles de déplacement. Il s'est travaillé sur un peu tous les tempos. Il est très bon pour engager. Il est très bon pour contrer. Il peut se permettre de lire son adversaire parce qu'il sait que quoi qu'il arrive, sur base de sa lecture, il aura la réponse optimale pour remporter les derniers rounds. Et c'est ça qu'il y a d'intéressant, c'est ici, c'est une revanche. qu'il a déjà eu 12 rounds pour lire le jeu d'Anthony Joshua. Et là, mon point d'interrogation, c'est avec quel mindset va rentrer Usyk sur le ring. Est-ce qu'il se dit, je connais Joshua, je connais son rythme, je vais vouloir l'étouffer dès le début parce que je sais ce que je dois faire? Ou bien il va partir du principe qu'Anthony Joshua va quand même faire pas mal d'adaptations et il va se dire, je vais pas prendre de risque. J'aime pas utiliser ce terme parce que pour moi, ça reste risqué quand même de dire, OK, je suis dans l'attente pour lire et on verra ce qui se passe parce que je pense pas qu'il... La meilleure stratégie pour lui, c'est pas d'être dans l'attente et essayer de lire, c'est d'être quand même proactif et actif dans le combat. Mais c'est pas impossible qu'il se dise, OK, je vais refaire un peu le même schéma que dans le premier combat. Je vais commencer light, je vais marquer mes points, je vais voir ce qui fonctionne moins bien. Et c'est à partir du moment où j'ai une vraie lecture sur mon adversaire, donc sur Joshua, que je vais, donc sur le nouveau Joshua ou sa nouvelle version, que je vais imposer mon jeu. Donc ça, c'est mon gros point d'interrogation. Est-ce que Usyk vient pour, et je pense que c'est intéressant d'un point de vue mental, est-ce qu'il vient pour complètement rouler dessus dès le premier round en espérant le briser mentalement et le finaliser dans le troisième, quatrième, dans la troisième, quatrième, cinquième reprise? Ou alors est-ce qu'il va revenir de nouveau sur un plus faible volume de jeu dans le premier round, deuxième round, le temps de lire et puis adapter son jeu en fonction de la nouvelle version d'Anthony Joshua?
Je pense que c'est ce qui peut se dire, Chris. Et je tiens à ajouter aussi un point, on ne l'a pas abordé, mais pour moi ça avait grande importance lors du premier combat. C'est la coupure du SIC qu'il a subi face à Anthony Joshua, qui était quand même une très très grosse coupure. Et c'est vrai que bon, il y a une petite interrogation potentielle de est-ce que le combat aurait pu être arrêté à ce niveau-là. Et surtout, enfin, ça l'a quand même considérablement gêné. Donc tu vois, quelqu'un qui n'a pas l'habitude non plus de se prendre des coups de cette ampleur-là et d'être coupé comme ça, je pense que là, bah, il a eu l'occasion de récupérer. S'il n'y a pas non plus la même coupure qui, moi franchement, je sais plus, parce qu'il y avait eu un combat... pas très longtemps avant, qui avait été arrêté à cause d'une grosse coupure comme ça, donc je pense que ça jouait aussi dans un coin de sa tête, et puis bah forcément, quand vous êtes coupé comme ça, chaque fois que vous prenez d'autres jobs, ça fait un petit peu mal, mais je pense que ça joue aussi, et à mon avis, là, il va être beaucoup plus confiant, et il convient de dire que c'est la première revanche chez les pros du SIC. Moi, pour Joshua, mon cher Chris, je pense qu'il a tout intérêt à adopter la stratégie de Derek Chisora, et puis même de ce qu'avait fait Ruiz contre de ce qu'a fait faire Ruiz lors du premier combat contre Joshua, de ce qu'avait fait Tyson Fury contre Deontay Wilder à partir du deuxième, donc à savoir vraiment utiliser tout l'avantage physique qu'il a contre Usyk, sachant que, et c'est ce que j'avais dit en préambule donc de notre podcast, c'est que les arbitres, enfin tout est organisé par Anthony Joshua. Quand je dis ça, c'est que vous voyez bien, quand vous regardez le clinch en boxe, vous pouvez tantôt être un peu frustré pour vous dire « Ah bah putain, l'arbitre direct, il est en train de les séparer. » C'est vous qui organisez le truc. Comme quand il y avait eu Ruiz Joshua, le premier combat, qui était les débuts aux États-Unis de Joshua, ça avait été le premier surpris de se dire « Putain, Ruiz est en train de me ruiner en clinch. » Parce que d'habitude, dès qu'il y a le clinch qui s'instaure chaque fois qu'il faisait ses combats, l'arbitre était là « Non, 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 les gars, on se sépare. » Là, l'arbitre, il essaie 15 secondes, donc ce qui permettait à Ruiz d'avoir tout ce qu'il pouvait pour faire son taf.
C'est clair. Et en fait, c'est vrai que tu en as parlé en préambule et je m'étais dit, tiens, ça aussi, c'est une information à donner parce que je parlais de décision et tout ce qui s'ensuit. Mais c'est clair que ça, c'est peut-être une pression du côté de Usyk de se dire, j'ai plutôt pas intérêt à aller à la décision, ou en tout cas, si on y va, il faut que ce soit absolument clair, que je marque mes knockdowns et tout ce qui s'ensuit. Donc, c'est vrai que Usyk a peut-être je sais pas si pression est le bon mot, mais en tout cas, il a un intérêt à être peut-être plus agressif plus tôt dans le combat, ou en tout cas à avoir une sacrée confiance à finaliser Anthony Joshua. C'est vraiment dans son intérêt. Et en fait, c'est ça qu'il y a de beau dans ce combat, c'est que Anthony Joshua, si on part du principe que les juges seront quand même feront preuve d'intégrité, il a peu de chances de l'emporter à la décision, donc il doit finaliser tôt. Et si Usyk part du principe que les juges manqueront d'intégrité, il doit aussi finaliser le combat. Donc on a déjà eu un très très beau premier combat qui était super agréable, bien que ce soit une décision. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas trop les décisions parce que ça manque de spectacle. Ici, clairement, ce deuxième combat, il est vié à être absolument magnifique à regarder.
Alors, Chris, est-ce qu'on a quelque chose à ajouter avant les pronostics?
Non, mais je suis juste passé en vue de mes notes. Moi, il y a juste un point en plus chez Joshua, c'est capitaliser davantage sur les body shots, parce que clairement, face à quelqu'un de rapide, qui a un bon gas tank, qui a un bon cardio, bah, les body shots, ça fonctionne bien, et ça a bien fonctionné pour lui dans le premier combat. Donc c'est une cible moins mobile, plus facile d'accès entre guillemets. Et du côté de Usyk, je trouve que il se déplace tellement bien et le delta vitesse dans le footwork entre lui et Joshua est tellement grand qu'il y a eu des moments dans le premier combat où il prenait vraiment des angles ultra dominants, mais il attaquait, il ressortait immédiatement. Et je trouve qu'il y a eu plusieurs moments, plusieurs instances où il attaquait et il aurait pu rester à une distance courte pour envoyer une ou deux frappes supplémentaires avant de désengager. Et je pense que là-dessus, il a peut-être quelque chose à jouer, c'est varier un peu plus. C'était beaucoup single attaque, combo de deux coups. Et je pense que de temps en temps, il pourrait engager avec des combinaisons un peu plus longues parce qu'il en est totalement capable. En tout cas, quand il était cruiserweight, il envoyait pas mal de longues combinaisons. Et là, contre Joshua, je pense que c'était plutôt le facteur risque. Okay, s'il m'en met une grosse, ça change la tournure du combat. Mais là, il a vraiment plusieurs fois attaqué sur des angles où Joshua aurait été incapable de générer un contre dur et lui aurait pu marquer davantage de coups en combinant davantage.
Eh bien voilà, il est l'heure de se mouiller, monsieur.
Musique.
Ok.
TKO 9e.
Oh, wow. Ouais, non, bah pareil. Je vois aussi. Je vois Usyk aussi. Et je vois Usyk, ouais, par TKO. Allez, 10e. Allez. TKO 10e, Usyk. Mais. Honnêtement, donc voilà, je vois Usyk, mais j'exclus vraiment pas une victoire d'Anthony Joshua parce que ce qui s'était passé lors de la revanche contre Andy Ruiz, je ne le pensais pas capable de faire ça, Joshua, et pourtant il l'a fait. Là, et je pense que c'est quelqu'un, enfin, je lui tire mon chapeau un peu, hein, parce que c'est vrai que, ok, c'est peut-être pas le meilleur boxeur de la catégorie, mais c'est quelqu'un, j'ai l'impression, moi en tout cas, que quand il est dos au mur comme ça, il sait qu'il y a des enjeux qui sont tels qu'il est obligé de faire les changements nécessaires. Par exemple, là, le fait de se dire, je change d'entraîneur à ce moment-là de sa carrière avec tous les enjeux qu'il y a, alors que vous savez que vous êtes une des plus grandes stars, donc forcément, si vous changez d'entraîneur, il y a toute la presse qui va en parler. C'est un petit peu un désaveu du mec qui vous avait monté aussi haut. Bah, il n'hésite pas à le faire. Il n'a pas hésité non plus à faire la tournée de tous les plus gros gyms aux US pour savoir quel entraîneur il allait prendre. Donc, enfin, c'est tous ces trucs-là qui me font dire que si. Il doit justement faire ce que t'as dit, tu vois, soit accepter de prendre des coups, ou même faire un combat qui soit dégueulasse, mais pour lui permettre de gagner, il est prêt à le faire, tu vois. Et juste là, je me dis, avec un mec qui est comme Usyk, qui est quand même plus roublard, tu meurs, c'est juste ça, en fait, où je me dis, ça peut être compliqué parce qu'on est sur quelqu'un. Je pense que c'est un petit peu compliqué de réussir à prendre Usyk comme ça, ou alors faut que tu aies un taux de succès qui soit absolument énorme.
Mais ouais, c'est de là que vient mon pronostic, parce que je pense que Joshua a clairement toutes les cartes en main pour l'emporter, et je crois vraiment en les possibilités de sa victoire. Mais le gap technique était tellement gros sur le premier combat que j'ai du mal à le voir, voilà, combler ça et même dépasser Usyk. Après, voilà, il en suffit d'une avec Anthony Joshua. Bon, c'est pas le plus gros puncher qu'on ait jamais vu dans cette division, mais il fait partie quand même des bons punchers, et je pense qu'une frappe peut changer la tournure, comme on l'avait vu contre Klitschko par exemple. Une frappe change la tournure du combat et puis il arrive à capitaliser dessus. Donc c'est totalement possible, mais là, enfin voilà, j'ai l'impression que Usyk connaît les enjeux. S'il arrive à confirmer la revanche, pour lui c'est, ouais, c'est une nouvelle vie qui s'ouvre à lui. Déjà, avec sa première victoire, ça l'était, mais là, ce sera un énorme tournant, et je pense qu'il connaît les enjeux. Il continue de s'améliorer. Il a aussi les cartes en main pour faire les bonnes adaptations, et c'est là-dessus que je le vois l'emporter. C'est simplement cette capacité à comprendre les adaptations de Joshua dans la revanche. Et il a les compétences techniques et l'intellectuel pour s'adapter de manière optimale à ça et trouver ses ouvertures assez tôt, même dans le combat.
Et ben voilà. Réponse samedi soir pour la revanche tant attendue entre Oleksandr Usyk et Anthony Joshua. Chris, merci beaucoup. Je pense qu'on a fait le tour. On se retrouve très très vite. Vous le savez bien. Shalala ma chouette p'tain. En 33% sur tous mes protéines avec le code la soie. Puis nos savons, c'est Onae. Ça se trouve sur onae.fr. Waouh, il a le Stockton 209. Et puis il va falloir lui passer le booster Mojito qui sent très très bon, monsieur. Qui sent très très bon.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sueur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin avec nous, vous tapez La Sueur sur toutes les plateformes ou sur les réseaux sociaux, vous nous trouverez. Et là, vous nous écoutez très certainement en audio. On est aussi en vidéo sur YouTube, mais également sur Snapchat. Là encore, vous tapez La Sueur et on sera là. Merci de votre fidélité et à très vite pour de nouvelles aventures.